C'était Océan de César RLM. Vous êtes toujours dans l'émission Radio Biodiv sur Principe Actif. Et on va tout de suite passer à l'espèce du mois.
Je suis la grenouille à grande bouche. Et toi, comment tu t'appelles ?
Alors, l'espèce du mois est une libellule appelée le Saint-Pétrum sanguin.
Mais attends Camille, Saint-Pétrum c'est le nom latin de Saint-Pierre, non ? Il est bien connu que Saint-Pierre est colérique, donc sanguin.
Pas du tout, arrête de plaisanter. Alors, en français, le Saint-Pétrum sanguin ou le Saint-Pétrum rouge sang est le pur calque de son patronyme scientifique, Saint-Pétrum sanguineum. Donne-nous plutôt l'étymologie de ce nom étrange, s'il te plaît.
Bon, d'accord, un peu de sérieux. Sanguin ou sanguineum en latin, c'est assez facile, c'est lié à sa couleur rouge sang, ou du moins une partie de ses libellules. Saint-Pétrum, c'est plus difficile. Cela voudrait dire abdomen comprimé latéralement. Étrum étant étron pour abdomen, mais l'étymologie est encore douteuse et en plus pas très judicieuse puisque l'abdomen de cette espèce est plutôt fin et cylindrique. Alors je m'excuse d'avance de mon accent un peu compliqué. En anglais, si on va voir chez nos voisins, Rudy Darter vient de dart, fléchette. Darter pouvant faire penser à la vivacité des Saint-Pétrum. Rudy, lui, pourrait faire plutôt penser à la couleur rouge. En allemand, Eidel-Libelle signifie libellule de bruyère. Et ça viendrait de la période de vol assez tardive de ces espèces qui coïncide avec la floraison des bruyères. Dis-moi, il me semble qu'il y a deux sortes de libellules, celles qui ont une seule paire d'ailes et celles qui en ont deux.
Ah non, pas du tout Camille. Toutes les libellules ont deux paires d'ailes. Quatre, comme chez la plupart des insectes. Par contre, comme tu l'as dit, il y a bien deux groupes chez les libellules qu'on appelle odonates. On distingue les agrions, ou demoiselles, ce sont les toutes petites libellules à l'aspect frêle qui volettent paisiblement. Elles se posent assez facilement sur les herbes et on peut constater qu'elles gardent les ailes fermées au-dessus de l'abdomen. On peut alors avoir l'impression qu'il n'y a qu'une seule paire d'ailes. Ce sont les zygoptères, de zygos attachés, liés et ptères-ailes. A contrario, on peut aussi observer les libellules dites libellules vraies, que l'on nomme anisoptères. Ça vient de aniso, différente, et ptère, toujours elle. Ce sont les très grosses libellules qui volent en continu, assez rapidement, au-dessus de l'eau. Ce sont un peu des hélicoptères de la mare. Elles se posent rarement, mais lorsque c'est le cas, on peut observer que les ailes restent ouvertes, étalées à plat, et on voit bien les quatre ailes avec les deux ailes arrière qui sont plus larges.
Ok, super, maintenant je saurais faire la différence entre les deux. Mais il y a quelque chose d'essentiel concernant nos habits de libellules.
Ah oui, quoi ?
Eh bien, ce sont des insectes, donc ils ont six pattes. Et comme tous les insectes, et leurs cousins les autres arthropodes, ils ont une carapace, une cuticule dont ils doivent changer pour pouvoir grandir. Ce changement de cuticule s'appelle une mue. On avait déjà vu ça avec les papillons lors d'une précédente émission.
Mais est-ce que c'est comme chez les papillons qui subissent une métamorphose pour passer du stade chenille au stade adulte ?
Exactement. Les libellules vont subir une vraie métamorphose. Ce n'est pas le cas de tous les insectes. Par exemple, les criquets ou les sauterelles naissent avec le même aspect que les adultes, sauf qu'ils sont plus petits, ils n'ont pas encore d'ailes ni d'organes sexuels. Dans ce cas, les bébés criquets, on va les appeler plutôt des jeunes. Alors que chez les insectes, qui subissent une vraie métamorphose, on va les appeler les holométaboles, les jeunes sont des larves, comme la chenille du papillon.
Alors comment est la chenille de notre libellule ? Mais on peut peut-être pas parler de chenille, plutôt de larve du coup.
Oui, exactement. Et comme tu vas le voir ou l'entendre puisqu'on est à la radio, le cycle de vie des libellules est en trois étapes. Et extraordinaire, la métamorphose grandiose puisque les libellules changent de milieu de vie pendant leur cycle. Au début, c'est un œuf dans une mare. De cet œuf va éclore une larve aquatique. Comme l'adulte, la larve est carnivore et chasse à l'affût dans les plantes ou bien dans les sédiments au fond de l'eau. Évidemment, les larves elles peuvent être victimes d'autres invertébrés aquatiques, comme les dytiques ou alors les larves de très grosses libellules, mais aussi de poissons ou d'amphibiens, comme les tritons ou les larves de salamandre. Elles peuvent aussi servir de repas aux oiseaux ou aux micromammifères, comme les musaraignes aquatiques. Alors, le développement de cette larve va durer entre 6 et 10 semaines en 8 à 13 stades.
8 à 13 stades, ça veut dire quoi ça ?
Finalement, un stade, c'est le nombre de fois où elle va muer.
Et une fois qu'elle a atteint une taille suffisante, elle va émerger, c'est-à-dire que la larve va monter sur une herbe, bien s'accrocher et sortir de son corps de larve pour se métamorphoser en libellule adulte. Les émergences s'étalent généralement sur 2 mois et c'est une phase très critique de la vie des odonates.
Pourquoi tu dis que c'est critique dans leur vie ?
Parce que lorsqu'elle sort de son corps, le corps est mou et encore humide. Il faut donc que la nouvelle libellule ne bouge pas pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, pour sortir correctement, sécher, durcir et se colorer. Il est possible que les ailes sèchent dans une mauvaise position et dans ce cas-là, c'est impossible pour elle de voler et donc de se nourrir. Ou alors qu'un prédateur passe par là et en profite pour faire son petit repas.
D'accord, mais après la métamorphose, il se passe quoi ?
Alors après la métamorphose, l'adulte s'éloigne de l'eau pour une période de maturation d'environ une dizaine de jours. C'est notamment à ce moment-là qu'on peut croiser une libellule dans les chemins herbeux, les clairières, les prairies. Mais rassure-toi, il revient rapidement vers les milieux humides pour y mener son existence de prédateur, se tenant posé sur une tige avant de fondre sur sa proie. Mais d'ailleurs, on parle du Saint-Pétrum, mais à quoi ressemble-t-il ?
Alors, je vais vous faire une petite description. Comme on l'a déjà dit, il s'agit d'une grosse libellule. Elle va faire entre 35 et 45 mm de long pour 46 à 62 mm d'envergure. Les mâles matures ont l'abdomen et la face rouge, les femelles sont plutôt orangées. Le thorax est la coloration brun uniforme avec les sutures noires. Les femelles et les mâles immatures, eux, sont jaunes à orangés. Et les deux sexes ont les pattes noires. D'ailleurs, peux-tu nous expliquer la reproduction si particulière de ces libellules ?
Bien sûr. Alors, l'accouplement est assez classique pour le coup. Le mâle saisit la femelle en vol. D'ailleurs, petite parenthèse, mais dans certaines régions, plusieurs espèces sont très semblables au Saint-Pétrum. Les femelles se ressemblent tellement que même les mâles ont des difficultés à les reconnaître et peuvent se tromper lors des appareillements. Bref, l'accouplement dure de 2 à 6 minutes. Le tandem va prendre son envol à la recherche d'un lieu de ponte. Et une fois trouvé, la femelle lance son abdomen vers le bas et propulse les œufs à proximité immédiate de l'eau dans un secteur qui est voué à être inondé en fin de saison. Les œufs entrent alors en diapause, vu qu'ils sont dans un secteur pour l'instant sec, et n'éclosent qu'au printemps suivant. Et voilà, la boucle est bouclée.
Presque, parce que j'ai encore quelques questions. Nous ne l'avons pas précisé, mais cette libellule, elle va avoir un rôle dans la chaîne alimentaire. Les adultes, tout comme les larves, sont carnivores, ça on l'a déjà vu. Elles attaquent les petits invertébrés, qui passent à leur portée. Les adultes sont capables d'attraper des proies volantes ou posées. En termes de prédateurs, quelques oiseaux et araignées tissant une toile peuvent s'en nourrir. Mais où pouvons-nous les observer ?
Les adultes volent de mai à octobre. Ils fréquentent tout type de milieu aquatique qui est riche en végétation, mais évitent généralement les rivières courantes ou les eaux acides. On le trouve sur des points d'eau eutrophes et permanents, mais aussi temporaires. Et est-ce que tu sais comment cette espèce va ?
Alors, cette espèce, elle est classée LC, c'est-à-dire en préoccupation mineure. On peut la rencontrer partout en France, et à plus grande échelle, elle est assez commune partout. On peut même l'observer jusqu'en Sibérie. Dernière petite question, est-ce que tu connais la posture de l'obélisque ?
Non, dis-moi tout.
C'est une posture typique des anisoptères. Le Saint-Pétrum, posé, tient ses ailes étalées à plat. Mais par temps chaud, il va plutôt adopter une posture qu'on appelle la posture de l'obélisque. L'abdomen est dressé vers le soleil, les ailes rabattues, ombrageant le thorax et la surface du corps directement exposée aux rayons du soleil est donc réduite.
Et à quoi sert cette posture ?
C'est une adaptation comportementale pour se protéger de la chaleur en été, où elles dressent leur abdomen vers le soleil pour réduire la surface exposée aux rayons du soleil. Et vu que nous sommes en pleine canicule, je pense qu'en ce moment, c'est leur position préférée.
Eh ben merci les filles, je pense qu'on va tous, avec Joël, on va essayer de faire la position de l'obélisque pour les joueurs qui restent. Écoutez, c'est le moment maintenant de l'interview. Eh bien, on va rester sur la thématique du jour, on va rester sur les libellules et je suis allé rencontrer un bénévole qui fait partie d'un collectif qui est en train de réaliser un atlas des libellules de Normandie. C'est parti.
Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Antoine du Cercion, qui est bénévole au Cercion, et il va nous parler, il me semble que vous êtes en train de remettre en place un atlas des libellules en Normandie.
Oui, c'est tout à fait ça. Donc l'atlas, en fait, il est porté par le Cercion. C'est un collectif, c'est pas vraiment une association. C'est un collectif à but de sortie d'atlas. Donc son existence, elle existe depuis 2005. C'était un collectif qui a été lancé par plusieurs bénévoles, des entomologistes, donc ceux qui étudient les insectes, pour améliorer les connaissances des libellules sur la région. Et c'est un collectif qui existe depuis du coup un peu plus de 20 ans, qui avait un petit peu périclité, la dynamique avait un petit peu descendu dans les environs de l'année 2019-2020, avec le Covid, ça n'a pas dû aider. Et en fait, on a relancé la dynamique l'année dernière, donc en 2025.
Avec des anciens et plein de petits jeunes.
Exactement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une transition entre les anciens qui étaient là avant et puis les petits jeunes qui arrivent maintenant, et puis voilà, il y a une sorte de synergie.
Alors Cercion, du coup, c'est le collectif d'études régionales
pour la cartographie et l'inventaire des odonates de Normandie. Le petit truc trop drôle, c'est que le Cercion, en fait, c'était le nom d'une espèce, mais depuis, le nom de l'espèce a été révisé, il a changé. Donc c'était un petit peu le jeu de mots, ils ont réussi à trouver une espèce et mettre le sigle avec.
Ok, et odonate, pour ceux qui nous écoutent, c'est le nom scientifique qu'on donne au groupe des libellules, parce qu'il y a, si je ne me trompe pas, il y a deux types de libellules un petit peu. Il y a les libellules vraies et les demoiselles, c'est ça?
C'est ça, il y a deux grandes familles, deux grands ordres même qu'on peut appeler ça. Et donc du coup dedans on retrouve ce qu'on appelle les libellules vraies et les demoiselles qui sont plus petites. Donc ça c'est ce qu'on appelle le grand groupe des odonates.
Effectivement, là, vous êtes en train de refaire un atlas et on peut se poser la question à quoi ça sert un atlas ?
Eh bien, un atlas, c'est un outil qui est super intéressant d'un point de vue scientifique, notamment pour améliorer les connaissances sur des espèces. Donc ça peut marcher sur les mammifères, les amphibiens. Là, en l'occurrence, on étudie un groupe spécifique qui sont les odonates, donc les libellules en Normandie. Donc le rôle d'un atlas, c'est justement d'avoir un travail de suivi de population. C'est-à-dire qu'en général, on va renouveler l'atlas selon une période donnée. Donc en général, c'est tous les 10 ans. Donc on fait ça sur une chronique de temps. Donc quand on sort plusieurs atlas avec différentes décennies, ça permet de comparer l'évolution des populations. Donc ça, c'est intéressant. En plus de ça, ça permet justement d'avoir un objectif de prospection ciblée sur des espèces. Et des espèces qui peuvent être sous-évaluées ou sous-prospectées, bah, c'est un outil intéressant parce que du coup, on va accorder un peu plus d'importance à celle-là.
Là, je vous suis un petit peu parce qu'il y a un groupe de travail, là, l'atlas est en cours. Et du coup, effectivement, il y a des fois des mailles, alors on appelle ça des mailles, c'est-à-dire qu'on coupe la région Normandie en plein de petits carrés de 5 par 5 ou de...
C'est 10 par 10.
10 par 10, des carrés de 10 km par 10 km. Et c'est vrai que des fois, il y a des mailles où il y a très peu de données, donc on sait qu'il y a eu très peu de recherches et ça peut permettre d'aller farfouiller dans ces coins-là.
C'est exactement ça, c'est qu'en fait, on va délimiter la Normandie avec... donc là, il y a 356 mailles de 10 km par 10 km, donc c'est des petits carrés. Et donc c'est des carrés qu'on va pouvoir prospecter, donc c'est plus facile de s'imaginer, tiens, sur telle journée on va faire tel secteur donné, donc sur 10 par 10 on va repérer les endroits favorables et puis avec ça on met une liste d'espèces à disposition justement pour savoir les espèces qu'on connaît déjà sur cette maille là
il n'y a pas besoin forcément de les chercher.
Voilà, pas forcément besoin de les chercher, si on les retrouve c'est très bien, mais le but c'est de retrouver d'autres espèces et donc c'est ça l'objectif.
Très bien. Et tiens, très bonne question. Avant de te poser la question de comment se portent les libellules en Normandie, combien on a d'espèces recensées pour l'instant en Normandie ?
Eh bien, en espèces de Normandie, on en a 59. C'est quand même pas mal. En France, on en a quasiment une centaine. Donc on est une des régions où il y a le moins d'espèces représentées, mais ce qui n'empêche qu'on a quand même des espèces très intéressantes. Et en ce moment, avec le réchauffement climatique, on a aussi des espèces qui on va avoir tendance à augmenter leur aire de répartition, donc qui arrivent du sud et qui on retrouve maintenant en région. Donc ça, c'est aussi intéressant à suivre. Ce sera un peu le but des atlas, c'est de voir l'apparition de nouvelles espèces et l'établissement de nouvelles populations à des secteurs donnés. Et puis en comparant les chroniques, si il y a des futurs atlas dans le temps, on verra la progression, la diminution de certaines espèces.
Donc, oui, parce que malheureusement, j'imagine, on est aussi dans une région où on a un climat plutôt frais encore, et que ça. Le réchauffement climatique en fait va induire la disparition peut-être d'espèces affinités, je perds mes mots, mais affinités
plutôt glaciaires,
etc. Ouais, oui. Je pense que dans les tourbières, tout ça, on a des reliquats d'air glaciaire et tout ça.
C'est ça, c'est que l'atlas en fait permet de voir des espèces, mais en fait, quand on voit la disparition, l'apparition de certaines espèces, ça indique aussi les changements climatiques et va indiquer aussi la perte ou le gain d'habitat particulier. Mmh. Donc on citait, tu disais les tourbières. Les tourbières, c'est des milieux qui sont déjà très rares en Normandie, et les seuls qui subsistent, soit sont pas en très très bon état de conservation. Donc les espèces qui étaient inféodées, qui sont spécifiques de ces milieux-là, leur tendance est plutôt à la baisse. Et on observe même des espèces qui étaient connues il y a encore une dizaine d'années, que maintenant on observe et qu'on considère éteintes en Normandie.
D'accord. Donc oui, si on en retrouve une, des fois on pourra avoir une surprise.
Ça peut arriver. C'est aussi l'objectif de faire un petit focus de prospection sur les libellules, c'est qu'il y a des endroits qui sont déjà très difficilement accessibles, parce que c'est dans des propriétés privées, parce que les terrains sont aussi difficiles à prospecter. Et puis ce serait pas étonnant qu'on retrouve des espèces ou des populations qu'on croyait éteintes, ou même des endroits où en fait on n'a jamais contacté l'espèce, et en fait qu'on la trouve dans ce secteur-là.
Et comment on pourrait vous filer un coup de main pour cet atlas? Alors vous organisez des initiations, vous organisez des sorties un peu partout en Normandie. Est-ce qu'il y a possibilité, quand on a une petite mare ou quand on a un petit bassin chez soi, si on a un appareil photo, prendre des photos? Je pense que sur photo, ça doit, pour certaines espèces, ça doit être possible de les identifier et de vous envoyer tout ça. Ça peut fonctionner.
Carrément. C'est même le but. En fait, c'est un programme participatif. C'est accessible pour les personnes, on va dire, plutôt professionnelles ou en tout cas très éclairées sur le sujet. Et c'est aussi intéressant pour que les personnes, en tout cas le grand public, commencent à connaître un petit peu les libellules. C'est l'objectif. Donc, on propose plusieurs formations et sorties sur l'année. On va le répéter sur plusieurs années de prospection. Donc le but, c'est de que les gens puissent améliorer leurs connaissances. Et ensuite, pour la transmission de données, toutes les données sont utiles. Donc dès qu'on voit une libellule, si on ne sait pas l'identifier, on peut la prendre en photo. Donc tant qu'à faire, on peut essayer de la prendre sous plusieurs angles, au niveau de la tête, voilà.
J'ai déjà fait un petit peu de prospection avec toi, du coup, des fois, il faut regarder, il y a des petites taches sur les ailes, il faut regarder sur le côté du thorax.
Thorax, l'abdomen, il y a plein de critères en fonction des espèces, des groupes, des genres. Ça peut être assez complexe, mais voilà, plusieurs photos prises sous plusieurs angles, avec une bonne définition. Vous pouvez nous les envoyer sur notre adresse mail, donc c'est atlas.odonormand@gmail.com. Et puis on vous fait un retour et puis on vous aide justement à déterminer l'espèce que vous avez en face de vous.
Il y a ça, mais il y a aussi peut-être quand on connaît un coin ou cas, récolter des exuvies.
Oui.
Exuvies, c'est ce qui reste de l'ancienne vie de la libellule. Tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, c'est un petit peu quelque chose de particulier, parce que souvent les libellules, on se les perçoit, un insecte qui va voler, mais en fait c'est à peu près 5% de sa vie. Les 95% restants vit sous forme larvaire, donc sans ailes, et en milieu aquatique, donc dans les mares, dans la rivière, dans un étang. Donc c'est des espèces qui vont être prédatrices, elles vont manger d'autres petits insectes, elles vont se déplacer dans l'eau, et puis quand elles vont arriver à un stade de maturité certain, elles vont sortir de l'eau, et c'est là qu'en fait elles vont faire un peu comme une chenille qui va devenir papillon. En fait, elle va faire une transformation et elle va sortir, s'extirper de sa forme larvaire, et elle va sortir avec des ailes, et ce qui reste, son enveloppe en sorte de papier mâché, c'est ce qu'on appelle une exuvie. Et donc ça, c'est une donnée qui est très importante pour nous aussi, parce que quand on trouve une exuvie, déjà on peut identifier l'espèce, sans même voir la libellule voler. Donc c'est une
des fois même le sexe, il me semble.
Et le sexe, il y a plein d'informations qu'on peut récolter, et du coup on peut même déterminer l'espèce. Et ça donne aussi une donnée qui est très importante, c'est que l'espèce s'est reproduite sur le secteur.
C'est ça, parce que les libellules, ça paraît bizarre, mais en fait des fois on peut les croiser dans des endroits où il n'y a pas du tout de mare. Oui. Ça, parce que moi j'en ai vu en pleine céréalière, en fait ça se déplace assez loin pour chasser, et il y a certaines espèces que j'ai compris sont assez difficiles à observer sur leur site de reproduction. Oui. et l'exuvie est très intéressante, donc n'hésitez pas, si vous avez un bassin, une mare près de chez vous, n'hésitez pas à récolter ces petites exuvies, et puis on mettra toutes les coordonnées du collectif sur la page de l'émission de radio, et vous pourrez éventuellement rentrer en contact avec eux et leur transmettre ces exuvies qui sont des sources d'informations très importantes. Et ça permet aussi, j'imagine, de compléter l'atlas à une période où il n'y a plus de libellules dans le ciel. On peut garder des exuvies pour les longues nuits d'hiver et identifier ça pendant les longues nuits d'hiver.
C'est exactement ça. C'est un peu le travail qu'on prend pour s'occuper l'hiver si on s'ennuie.
Il y a ça, il y a les pelotes de réjection. Après, ouais, on s'ennuie pas quand on est passionné de nature. Bah Antoine, je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose de plus sur cet atlas, le collectif ?
Peut-être rajouter que en fait on a accompagné par une autre association qui s'appelle le Grecia. C'est le groupe
régional d'études des invertébrés
du massif armoricain.
Voilà
c'est ça. Donc eux, c'est une grande association, ils vont en Pays de la Loire, Bretagne et aussi Normandie, donc c'est des spécialistes de tous les insectes. Voilà, ils sont vraiment très très forts, donc ils nous accompagnent techniquement. Il y a un chargé de mission qui nous accompagne pour faire les cartographies, rencontrer les partenaires financiers, parce que l'objectif c'est de sortir un atlas, donc plutôt sous forme d'un ouvrage, un livre, avec pourquoi pas associer des posters, comme on peut trouver les posters de l'URCPIE. Donc voilà, ils nous accompagnent, on est assez fiers et contents qu'on soit accompagnés par une structure comme celle-là.
Ça marche en partenariat, et qu'il y a plein de structures associées, plein de personnes qui bossent un petit peu dans des structures différentes, donc c'est vraiment un beau collectif. Et écoutez, on essaiera de trouver une petite formation ou initiation au monde des libellules, pas très loin de d'Evreux, là, à mettre dans les prochaines sorties. Et écoute Antoine, merci beaucoup pour ce petit moment et nous avoir expliqué un petit peu le travail que vous faites avec l'Atlas. Et puis on vous souhaite de compléter plein de mailles, c'est ça ce qu'on se dit quand on fait un Atlas.
Et on espère, rendez-vous en 2030, et puis merci pour ton invitation.
De rien, à bientôt.
Diffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Ando como hormiguita por tu espalda, ando por la quebrada dulce de la seda. Vengo de las alturas de tus nalgas, hacia el oro que se derrama y se me enreda. Tú te vuelves pidiendo el cielo, apuntando a la luz con flores, y como las ríos son los sabores en tu jardín de anhelos. Tam-di-ra-di-ra-di-ra-di-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-
c'était Ando Como Hormiguita des Birds on Wire. Vous êtes toujours sur l'émission Radio Biodive sur Principe Actif, l'émission qui parle de ta nature, et c'est le moment de passer aux sorties du mois.
Ça se passe près de chez vous !
Alors, on va commencer comme d'habitude dans le cadre du programme des Découvrez la nature dans l'heure le dimanche 5 juillet à 10h. Partez en balade le long du sentier de l'Anguille. L'atelier d'essence vous propose de découvrir les vertus des plantes au travers de pratiques sensorielles et d'histoires inspirées de ce lieu. L'occasion également pour observer la faune et espérer contempler les cigognes. Le samedi 11 juillet à 20h30, le peuple corbeau entreprend son voyage viking jusqu'au vallon Saint-Christophe pour vous proposer un spectacle musical qui vous plongera dans un voyage à travers le temps grâce à des chansons traditionnelles scandinaves. Retrouvez toutes les animations sur le site internet lanaturedansleur.fr et on continue avec le groupe ornithologique normand, le samedi 4 juillet, qui vous propose de partir à la découverte du grèbe huppé et de ses jeunes. Le jeudi 9 juillet, à 18h30, dans les locaux de l'association Naturellement Ruy, vous pouvez participer à la formation de la LPO sur les oiseaux du bocage normand. Et pour finir, il fait beau, il fait chaud, les libellules sont de retour, c'est la thématique de l'émission. Et en lien avec le reportage que vous avez pu écouter tout à l'heure, ou à réécouter sur le site de Principe Actif, venez vous former à l'identification de ces insectes le 15 juillet en vallée de Liton à Broville, et le 19 juillet à Auteuil-Autouillé. Retrouvez toutes les sorties et infos sur le site de l'émission.
Merci, merci. Et bien c'est le moment de passer au moment lecture.
Je vous présente aujourd'hui un livre étonnant que m'a prêté Cassandre, jeune et brillante naturaliste de l'heure et de l'association. C'est un ouvrage qui date du 19e siècle, écrit par un abbé féru d'ornithologie, Michel Honoré Vincelot, et qui présente toutes les espèces observées dans le Maine-et-Loire, plus celles qu'il a rencontrées durant ses voyages. Il s'intitule « Les noms des oiseaux expliqués par leurs mœurs », d'après l'édition de 1872. Un livre intéressant à plusieurs titres. Le premier grand intérêt de ce livre est de donner l'origine étymologique des noms d'oiseaux, qu'ils soient scientifiques ou vernaculaires, ce qui nous permet aussi de noter comment ils ont varié dans le temps. On a même quelquefois leurs dénominations étrangères. Tout cela émaillé de diverses références historiques ou mythologiques et d'anecdotes régionales. L'autre grand intérêt de ce livre est de permettre de se rendre compte à quel point la région était riche en oiseaux et de voir quelles sont celles qui ont disparu. Par exemple, l'auteur signale la pigrièche à poitrine rose, comme bien plus répandue que la pigrièche grise. Il signale aussi, comme nicheur, l'aigle botté, le milan royal. Ou alors de passage, l'aigle criard, le vautour percnoptère, le faucon cobèze, le pigargue blanche. On s'aperçoit aussi de quelle façon on en faisait l'étude. En les observant, bien sûr, mais aussi, malheureusement, en les abattant et en prélevant des œufs. On devine aussi que l'auteur n'est pas vraiment convaincu par la théorie de l'évolution proposée par Darwin. Il évoque plutôt la providence, que je traduirais plutôt par Dame Nature. La description des mœurs peut parfois ressembler à de l'anthropomorphisme, mais le côté désuet de la langue du 19e ajoute un charme suranné à la lecture. Un livre original donc, que l'on peut lire tranquillement, en fonction du temps dont on dispose, et dans lequel on peut piocher, en fonction de ses goûts, pour tels ou tels oiseaux. Merci donc à Cassandre pour cette belle découverte que je transmets volontiers à nos auditeurs. Bonne lecture et bel été.
Merci beaucoup Joël. Et bah écoutez, maintenant c'est le moment de donner la réponse de notre petit jeu. Est-ce que tu peux repasser le petit son ?